c'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche et c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30. Bonjour, bienvenue dans l'émission Nos Adorés, l'émission qui répond aux questions des ados. Donc aujourd'hui, on va recevoir Véronique Nouvier, qui est nutritionniste et diététicienne.
Tout c'est à bien fait, ça, Véronique ? Bonjour.
Bonjour. Donc vous exercez à Strasbourg ?
Oui.
Oui. Et je vais parler un peu de votre parcours avant qu'on commence à discuter nutrition, précisément dans cette émission. D'accord ? Donc vous m'avez envoyé un peu votre parcours qui est assez intéressant. Vous avez fait de la diététique quasiment tout de suite après votre baccalauréat, je veux dire.
Oui, oui, oui.
Donc vous avez su assez vite ce que vous vouliez faire comme métier.
Tout à fait, oui.
Mm-hmm. Donc vous avez fait un BTS en diététique parce que c'est intéressant aussi, je pense, pour les ados de savoir un peu comment on devient diététicienne. Parce que j'ai déjà entendu que certaines personnes ont cette envie. Donc ensuite, vous avez fait une formation à Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Oui.
C'est bien ça. Et donc vous avez parcouru un peu les différents services pour découvrir ce qu'on y fait et quel rôle joue la diététicienne dans l'hôpital.
Oui, c'est ça, pour voir aussi ce qui pouvait me plaire par la suite. Et je me suis dirigée vers le libéral.
D'accord. Vous avez... Enfin, pourquoi ? Parce que vous avez eu envie d'avoir des contacts différents avec les patients ou...
Oui, disons que les possibilités de les postes à pourvoir en Alsace n'étaient pas très variés et puis un peu moins intéressants que ce que j'avais pu voir à Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
D'accord.
Et donc j'ai tenté ma chance dans le libéral en me disant que ça pouvait être plus intéressant et on peut rendre de toute façon les choses intéressantes. Donc ça fait maintenant depuis 2001
ah oui, donc ça,
que j'exerce.
Ça fonctionne bien, vous avez pignon sur rue à Strasbourg, hein, j'avais entendu déjà parler de vous par divers canaux.
Oui, je pense que c'est parce que je suis installée depuis longtemps, donc à force, les gens connaissent un petit peu le nom. Mais maintenant, il y en a beaucoup d'autres qui s'installent et ça dynamise un petit peu le métier.
Vous voyez ça comme quelque chose de plutôt positif ?
Oui, oui, oui.
D'accord, super. En fait, vous m'avez parlé aussi du fait que vous preniez en charge les obésités sévères. C'est encore une de vos spécialités ou pas ?
Non, j'avais travaillé pendant un petit moment dans un réseau qui s'occupait justement des prises en charge d'obésité sévère. Mais depuis, j'ai arrêté, enfin, c'était 2 ans. Et après, je me suis consacrée uniquement au cabinet.
D'accord. Mais voilà. Vous avez, j'imagine, des personnes en obésité morbide qui viennent vous voir ou c'est forcément
ça.
À l'hôpital du coup.
Pas tant que ça. La prise en charge est un petit peu différente et puis sont souvent des gens qui passent par des chirurgies bariatriques.
Ah oui.
Mm-hmm. Donc bypass, sleeve, etc. Par contre, on accompagne, on fait le suivi d'accompagnement à la demande du chirurgien très souvent.
Et ce qui m'a intéressé aussi dans votre parcours, c'est que vous dites que vous êtes maintenant spécialisée dans tout ce qui est alimentation végétalienne et végétarienne.
Oui.
Je suis très concernée, évidemment. Du coup, ça m'intéressait de savoir si vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup plus de gens qui se dirigent vers ça maintenant et qui viennent vous voir pour vous demander des conseils,
oui,
au-delà
oui.
des ados, bien sûr.
Depuis 3 ans, il y a vraiment un engouement pour une alimentation plus... saine, plus écologique, plus éthique aussi. Enfin, c'est vraiment une globalité et il y a beaucoup de demandes. Et c'est vrai que je me suis un petit peu spécialisée là-dedans parce qu'il n'y a pas beaucoup de diététiciennes finalement qui savent répondre à la demande végétarienne et végétalienne ou végane.
Bien sûr.
Voilà. Donc oui. Et j'ai beaucoup de demandes par rapport à ça, de plus en plus.
Et les ados sont plus concernés que les autres ou pas ? Il y a une prise de conscience chez les ados d'après vous ?
Non. La demande par rapport au végétarisme ou végétalisme, c'est plus chez les adultes.
D'accord. Très bien.
Pour le moment, en tout cas.
Bah, Véronique, on va commencer avec notre première rubrique.
Et maintenant,
c'est l'heure de la rubrique.
Et vous, quel ado étiez-vous ?
Oui, c'est ça. Donc, quel ado étiez-vous, Véronique ? Parlez-nous un peu de vous en tant qu'ado.
J'étais une ado, je pense, assez basique, assez normale. J'aimais bien l'école, je travaillais assez bien à l'école, mais j'aimais aussi bien faire la fête, aller danser, m'amuser avec les copains, copines.
Vous n'aviez pas de problème à faire les deux, en fait ?
Non, j'essayais de jongler, mais c'est vrai que je viens d'un petit village assez perdu, et donc... On n'avait pas forcément accès à tous les loisirs qu'on peut avoir aujourd'hui. Je vois avec mes enfants, voilà, elles font plein de choses. Et donc nous, on s'amusait un petit peu autrement. C'est-à-dire qu'on allait plutôt faire la fête le samedi soir. Voilà, on allait danser. J'avais une boîte de nuit dans mon village. Donc c'était un petit peu...
Vous retrouviez là-bas avec, voilà, avec vos amis.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Ah, bah, c'est bien. C'est chouette, au moins vos parents savaient où vous trouvez.
Oui, oui, ouais. Puis c'était assez familial, tout le monde se connaissait, donc il n'y avait pas trop d'inquiétude.
D'accord, donc c'était ça votre adolescence. Et est-ce que vous avez ensuite, pour vos études, vous êtes donc partie à Paris, etc. Vous étiez encore toute jeunette à l'époque?
Alors j'ai fait mes études à Strasbourg. Paris, c'était juste une formation qui a duré 2 mois, donc c'était pas très long. Je me suis installée à Strasbourg à 18 ans et puis j'y suis restée.
Très bien, merci beaucoup. Alors on va donc commencer à parler en fait de la nutrition, qui est le sujet qu'on va donc aborder aujourd'hui dans Nos Adorés. Donc vous êtes diététicienne, nutritionniste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en fait en quoi consiste cette profession? Parce qu'elle n'est pas utile qu'en cas de catastrophe, j'ai envie de dire, non ?
Tout à fait.
Voilà.
Alors, c'est surtout expliquer aux gens comment manger en fonction de leurs besoins et surtout de leurs objectifs. Perte de poids, meilleure santé, performance sportive, enfin voilà, on définit des objectifs ensemble et on essaye de cadrer au mieux l'alimentation en fonction de ces objectifs, mais en tenant compte quand même du mode de vie, des goûts, des habitudes de vie, hein, des problèmes de santé et aussi des possibilités de chacun.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Possibilités... pratique, c'est-à-dire en fonction du métier, quelqu'un
du mode
qui travaille,
de vie. Oui,
voilà, qui travaille par exemple en décalé ou possibilité financière aussi, puisque manger équilibré ça a un coût. On adapte vraiment au cas par cas, c'est très personnalisé.
D'accord, c'est très intéressant parce que c'est du coup pas du tout routinier, j'imagine, comme profession.
Absolument. C'est l'intérêt d'ailleurs du métier.
Et peut-être aussi du libéral, quand vous disiez que vous aviez besoin que ce soit un peu plus challenging. Ou peut-être
Ouais,
exactement.
Tout à fait.
Donc dans votre pratique, vous recevez beaucoup d'adolescents ?
Alors beaucoup, je dirais pas, c'est pas la majorité, mais j'en reçois quand même pas mal. Et voilà, c'est pas la majorité, on va dire, mais je fais quand même des suivis d'enfants et d'adolescents.
Et d'adolescents, oui. D'accord. Donc, outre le surpoids, quelles sont les raisons pour lesquelles ils poussent la porte de votre cabinet ?
Alors, beaucoup viennent quand même pour des problèmes de surpoids, qui n'en sont pas toujours, puisqu'ils ne savent pas toujours où est la limite, et beaucoup se sentent en surpoids alors qu'ils ont un poids tout à fait normal.
Ah oui.
Donc ça, c'est aussi bien de remettre les choses à plat.
Donc vous rassurez.
Oui, alors voilà, parfois c'est les parents un petit peu qui pensent que leur enfant est un petit peu trop, enfin, a trop d'embonpoint et on est vraiment dans un poids normal pour la taille.
Oui, parce qu'il faut le dire, selon la morphologie, etc., pour un même poids, on a des corps qui sont complètement différents.
Tout à fait. Ça dépend de l'ossature, de la masse musculaire, qui est plus ou moins dense. Donc ça dépend vraiment de plein de choses. Donc c'est vrai qu'on peut pas... On doit toujours être dans une fourchette de poids. Il n'y a pas de poids idéal. Et souvent, on a tendance à penser qu'on est un petit peu au-dessus au niveau du poids, alors qu'on est dans la bonne fourchette.
Donc, oui, c'est ça, c'est qu'on voudrait, enfin, l'ado souvent voudrait être dans la fourchette très très basse,
c'est
et dès
ça.
Lors qu'il n'y est plus, considère que c'est anormal.
Absolument. Donc là, si la personne n'est pas forcément à l'aise, on va quand même mettre quelque chose en place pour affiner un peu, mais de manière très saine, mais sans chercher des objectifs utopiques à perdre des kilos et des kilos. C'est plus un objectif silhouette, on affine et on tonifie.
Bien sûr,
voilà.
Donc sport, etc. Bon, ça, on y reviendra.
Et alors, de plus en plus viennent aussi pour leur pratique sportive. pour plus de performance ou simplement pour savoir comment.
Ah, donc
mieux
l'ado
manger.
Viendra consulter pour ce,
oui,
pour ce genre
a,
de choses.
Y en
ah,
a
oui, c'est
pas
intéressant.
Mal. C'est vraiment de plus en plus fréquent et je me rends compte qu'il y a quand même pas mal d'adolescents qui s'investissent beaucoup dans le
dans
sport.
Dans le sport, ouais. Ça, je l'ai noté aussi. C'est, ouais. Oui, c'est plutôt beau parce que en tant que parents d'ados, quelquefois, on a le sentiment qu'autour de nous, ils sont tous avachis sur un lit ou
ce
un canapé,
pas
c'est selon.
Toujours le cas.
Et c'est absolument pas toujours le cas, c'est vrai. Alors justement, l'adolescence, c'est, j'imagine, un patient un peu particulier. Comment est-ce que vous faites pour établir un lien sain avec un ado qui vient pas toujours de son propre chef, j'imagine.
Alors. Déjà, lors de la première consultation, j'essaie de le voir seul, c'est-à-dire sans les parents.
D'accord.
Parce que quand il y a le parent, l'ado est quand même beaucoup plus braqué sur la défensive.
Bien sûr.
Un petit peu en contradiction avec ce que lui a peut-être imposé son père ou sa mère.
Tout à fait.
Et finalement, ça se passe toujours, enfin quasiment toujours très bien, dans la mesure où moi j'essaye d'être à l'écoute et de lui faire comprendre. Je suis pas là pour lui imposer des choses, mais pour le guider s'il a des demandes particulières. Et on se rend compte qu'il y a quand même une demande qui est là, mais comme c'est le parent qui a peut-être lancé l'idée, ils sont
au départ, ils sont peut-être un peu sur la défensive. Et après, oui, parce qu'en fait, ce que vous favorisez, après tout, c'est l'autonomie. Parce que de toute façon, l'alimentation, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez gérer au quotidien pour l'ado.
Absolument.
C'est lui qui va, oui ou non, mettre en pratique.
Voilà, je suis là pour aider les gens quand il y a une demande. Donc, c'est sûr que si on force quelqu'un à venir, ça ne fonctionnera jamais.
Pas du tout, oui. Ouais,
on essaie de mettre en place déjà une relation de confiance et ça se passe en général très bien. Et les résultats sont même souvent meilleurs qu'avec les adultes.
Oui, parce que j'imagine qu'une fois qu'ils sont lancés et qu'ils voient les bénéfices qu'ils peuvent en tirer, pas seulement sur la silhouette, j'imagine peut-être aussi sur la fatigabilité, sur l'humeur, parce que l'alimentation influence quand même
beaucoup de choses
sur tous les pôles de notre existence. Par contre, du coup, est-ce que vous avez le sentiment qu'une prise de poids est plutôt fréquente à l'adolescence ?
Alors, c'est assez habituel, mais c'est surtout parce que c'est une période où le corps se transforme pas mal, où on change vraiment de morphologie. Donc, ce n'est pas toujours une prise de poids anormale. Le muscle s'alourdit, l'ossature se densifie aussi. Donc, le poids augmente toujours à cette période, mais pas forcément de manière anormale. Et c'est pour ça que c'est bien de mettre les choses à plat, de calculer vraiment le poids, la fourchette de poids dans laquelle l'ado doit se situer pour lui dire, ben voilà, il n'y a pas de surpoids. Mais si tu te sens un petit peu mal à l'aise dans tes vêtements, eh ben on va faire quelque chose pour que ça aille mieux.
Et puis souvent, quand je sais pas, la pratique sportive s'intensifie, il n'y a pas de perte de poids en réalité, puisque le muscle se densifie également.
Il y a même parfois prise de poids, mais pas prise de volume.
Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est important pour l'ado parce que j'ai l'impression qu'effectivement, ils ont tendance à beaucoup regarder la balance.
Les kilos, ouais.
Ouais, les kilos, ouais. C'est très important. Mais pour nous tous, hein, je crois qu'on est un peu conditionnés aussi à se dire à telle taille, il faut que je fasse tel poids, etc. Donc c'est bien de le rappeler pour nous tous.
Oui, oui. Ça, c'est important de leur dire et ils le comprennent assez bien.
D'accord. Donc pour ce qui concerne l'alimentation stricto sensu, même si à la maison on tente d'équilibrer, on ne peut pas toujours contrôler ce qui est consommé dehors. Alors comment faire d'après vous ?
Moi j'essaye de donner le conseil le plus juste possible. C'est vrai qu'on ne maîtrise pas toujours ce que l'adolescent va manger à l'extérieur, donc on essaye de distinguer surtout les repas plaisir des repas entre guillemets nourrissants. Donc, les fast-foods...
Ah, c'est intéressant, cette différenciation.
Oui, voilà, de se dire, réserve peut-être les fast-foods, les pizzas pour les sorties avec les copains.
Mm-hmm.
Et puis, le reste du temps, d'essayer de combiner, d'alterner cantine, sandwich fait à la maison. Voilà, des choses un peu plus équilibrées. Parce que c'est vrai qu'à l'extérieur... Pour un ado qui n'a pas forcément les moyens de manger au restaurant, bah, ça va être la facilité. Et la facilité, c'est beaucoup de féculents.
C'est ça.
C'est pas beaucoup de protéines. Oui. Et c'est un petit peu ce qui pose problème.
Parce qu'en fait, c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Et c'est sûr qu'en allant consommer les tacos, là, par exemple, vous avez vu cette nouvelle mode des tacos.
Ouais,
vous
alors,
voyez tout
voilà,
ce qu'ils mettent
c'est
là-dedans.
Que enfin, c'est du féculent et du gras.
Oui.
Et la combinaison des deux, bah, c'est vraiment très mauvais. Ça, c'est ce qui favorise la prise de poids.
Mais au-delà de la prise de poids, quelles sont les conséquences que l'ado ne soupçonne pas forcément d'ailleurs d'une alimentation trop riche comme celle-ci ?
Des problèmes de santé, mais qui arrivent plus tard.
Plus tard.
Donc
mmh.
L'ado ne se rend pas forcément compte. Lui, il est en bonne santé, il se sent bien, il n'a pas forcément conscience de la nécessité de manger équilibré, de manger plus sainement.
Mmh. Donc ça, voilà. En tant que parent, c'est des arguments qu'il vaut mieux ranger finalement dans un tiroir ?
Oui, puis de toute façon, enfin, je pense, hein, enfin, c'est un avis personnel, mais quand ça vient de toute façon des parents... C'est en général
je vois pas ce que vous
assez rejeté.
Ah bon ?
Et finalement,
non, c'est vrai.
Je peux des fois simplement dire la même chose que le parent, mais ça sera peut-être pris d'une autre façon.
Oui, parce que vous êtes plus neutre, et même si ouais. C'est le parent qui a pris la décision, entre guillemets, de cette consultation, finalement, ouais. Si le parent est absent de la consultation en elle-même, vous pouvez établir un lien de confiance avec l'ado et être écouté, être entendu.
Oui. Mmh. Oui, oui.
Mais par contre, vous m'avez parlé des repas à la cantine. Moi, j'ai le sentiment que beaucoup d'ados à la cantine ne mangent pas forcément mieux que s'ils allaient dans un fast-food, toute proportion gardée, bien sûr.
Mmh. Oui,
qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, effectivement. Mais ça reste quand même un bon moyen de pouvoir avoir accès à une alimentation équilibrée.
Oui, accès.
Voilà.
C'est ça.
Maintenant, c'est sûr, si on se jette sur le pain en début de repas et puis après, on laisse de côté la viande ou le poisson, on ne mange pas de légumes, on ne mange que du pain et des pâtes, évidemment, le repas ne sera pas équilibré.
Bien sûr.
Mais en tout cas, pour les ados qui viennent chez moi, je leur parle vraiment de la nécessité de manger des protéines. Les légumes... Si on a, c'est bien. Si on n'a pas, après, ils peuvent toujours en mettre à la maison sous d'autres formes, des soupes, des purées, des choses
oui,
qui
oui,
peuvent
c'est
être
vrai.
Un peu
on
mieux.
Ruse un petit peu.
Mais vraiment, la protéine, c'est le facteur le plus important à cet âge-là. Ils sont encore en pleine croissance et c'est ce qui va faire développer la masse musculaire. On va dire que plus le muscle est dense, plus le corps brûle de calories. Donc, moins il va stocker de gras.
Tout à fait.
Donc on aura des silhouettes beaucoup moins volumineuses, beaucoup plus athlétiques, et on résout souvent les problèmes de poids rien qu'en augmentant un peu la protéine dans l'alimentation.
Oui, mais ça c'est important de le dire, parce oui. que combien de jeunes filles pour une perte de poids avant l'été, selon les injonctions sociétales, vont me dire « Oh là là, je ne vais manger plus que des légumes verts pendant une semaine ». Enfin, il faut
par
expliquer
exemple.
Aussi qu'effectivement, on perd du poids, mais on perd de l'eau, on perd de la masse musculaire.
On perd surtout de l'eau et de la masse musculaire.
Ouais.
Le gras va fondre en tout dernier.
En tout dernier, puisque c'est la réserve d'urgence. Quoi. Donc,
tout à fait. Ouais. Et plus le muscle fond, plus le corps a tendance à stocker du gras. Donc c'est vraiment, ça peut faire carrément l'effet inverse. De celui escompté au départ.
Tout à fait.
À un moment donné, prendre carrément du poids au lieu d'en perdre, alors qu'on ne mange quasiment rien.
Oui, puis de rentrer dans un cercle vicieux finalement.
Oui.
De yo-yo, comme on appelle ça.
De yo-yo. C'est exactement ce phénomène qu'on constate souvent.
Ouais. Et particulièrement chez les adolescents, parce que j'ai le sentiment que comme il y a perte de poids très rapide à cet âge-là, c'est vrai, hein. Elles vont s'amuser à... Je dis elles, pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on constate quand même plus.
Oui,
hein,
c'est un peu plus féminin comme comportement. Maintenant, on le voit quand même un peu plus chez les garçons.
Aussi hein,
hein, oui,
parce que maintenant, il y a un vrai culte du corps aussi chez le garçon. Hein, j'ai l'impression qu'il commence très tôt à pratiquer de la musculation, etc. Pour certains, même à prendre des produits pour...
Tout à fait. D'ailleurs, j'ai aussi beaucoup de demandes par rapport à ça. Des jeunes garçons, alors, qui sont... un petit peu sortis de l'adolescence, mais qui sont des jeunes adultes et qui viennent parce qu'ils font de la musculation, de prise de masse, et ils ont besoin vraiment d'une alimentation adaptée. Donc on fait les choses très correctement.
Bah c'est bien quand ils viennent vous voir et qu'ils ne sont pas là en train de boire leur poudre de leur côté. Donc j'avais aussi une question sur la nécessité, d'après vous, d'un rituel familial par rapport au repas. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui peut aider l'ado aussi à structurer ses prises alimentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Tout à fait. Bon, on voit quand même que dans certains pays, alors notamment aux États-Unis, où il n'y a plus tellement de structure de repas,
oui.
Les gens mangent un petit peu à n'importe quelle heure. Oui. On ne s'assied plus à table en famille. Enfin, voilà, on perd un peu cette habitude-là. Et l'obésité, alors, est un petit peu plus importante qu'en France, mais il y a beaucoup d'obésité morbide et sévère. Donc, en France, on a quand même encore cette habitude de manger à heure plutôt régulière.
Oui.
Le petit déjeuner, pas toujours, mais à midi, le soir. Et garder au moins un repas en famille dans la journée, c'est très, très important. Ça structure le repas, la journée. On a une maîtrise aussi sur ce que l'ado va manger,
tout
quand
à
même,
fait.
Plus ou moins.
Mmh, exactement.
Parce que si chacun se sert dans le frigo ce dont il a envie, ça peut vite partir sur de la malbouffe et entraîner problème de poids et problème de santé. Donc oui, je pense que c'est très très important de garder au minimum un repas.
Mm-hmm.
C'est difficile de faire plus. Après, si on arrive à faire le petit déjeuner et le dîner en famille, c'est génial.
Oui, c'est chouette.
Mais aujourd'hui, au moins le dîner, et si ce n'est pas tous les jours, au moins 3 à 4 fois par semaine.
Bah, ne serait-ce que pour communiquer aussi, les yeux dans les yeux.
Tout à fait.
Mmh.
Ouais.
Ouais. Non, c'est vrai que c'est assez salutaire de pouvoir échanger en famille et de pouvoir effectivement, au-delà du fait de gérer ce que consomme l'ado, c'est aussi d'être sûr qu'il mange tout simplement. Parce qu'il y a aussi des problématiques de ce type-là,
oui.
On n'en a pas parlé pour le moment. On en parlera dans le cadre d'une autre émission, mais il peut y avoir des problématiques de ce genre. Hein.
Oui, ça permet de détecter aussi pas mal de troubles du comportement alimentaire.
Tout à fait. Oui. Donc moi, ce que je voulais aborder aussi comme sujet avec vous, c'était l'influence de la publicité sur l'adolescent, l'influence des réseaux sociaux, etc. On en parle presque dans chaque émission parce oui. que finalement, ça touche un peu tous les domaines. Comment faire comprendre à un ado qu'un footballeur qui va faire la promotion d'un soda n'en boit pas finalement tant que ça, ou bien à une pratique sportive qui lui permet d'en consommer, mais qu'il faut équilibrer, quoi.
Alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'un sportif de haut niveau a une alimentation très équilibrée. Ça, c'est sûr.
Oui, on n'arrive pas là par hasard.
Non, non, non. La performance sportive passe par l'entraînement. Mais
oui.
par une alimentation quand même adaptée. Ça, c'est clair. Et ne consomme pas de soda régulièrement. Parce que y a quand même des conséquences sur l'organisme qui sont assez dramatiques. Donc la première, par l'acidité que ça génère au niveau du corps,
mm-hmm.
ça entraîne une déminéralisation de l'ossature. Donc un sportif ne peut pas se permettre de
ah
boire
oui,
du soda.
Sinon, blessure,
voilà.
etc.
Il ouais. se blesse, il a une ossature plus fragile. Ça va entraîner aussi des nouvelles maladies qu'on voit apparaître au niveau des dents, par exemple. Vraiment, l'émail qui est complètement abîmé par cette consommation de soda, parfois à longueur de journée.
Donc, c'est aussi une forme de déminéralisation ?
Aussi,
ouais.
tout à fait. Mmh. L'acidité, le corps, quand le sang est trop acide, il va chercher du calcium, du magnésium dans l'os, dans
ah,
l'émail
oui,
des
d'accord.
dents, pour alcaliniser le sang, le rendre moins acide. Et donc, on va avoir vraiment des problèmes d'ossature, de dents. Donc ça, c'est assez classique, caractéristique. Et puis, il y a une nouvelle maladie qui a fait son apparition assez récemment, mais qui pose vraiment des soucis. C'est ce qu'on appelle la NASH.
Ah,
donc, c'est une maladie du foie.
D'accord.
C'est le foie qui devient trop gras.
Charmant.
Oui, absolument. Pour les fêtes de fin d'année, c'est super. et donc, ça crée ce qu'on appelle une stéatose du foie. Donc, le foie devient gras. Ça provoque des inflammations et des lésions identiques à ce qu'on retrouve dans l'hépatite alcoolique.
Ah oui, d'accord.
Donc,
c'est ce que j'allais vous demander, justement.
Voilà. Et donc, on peut avoir exactement les mêmes problèmes que quelqu'un qui consomme énormément d'alcool.
Ah oui, comme
et
les cirrhoses, quoi, enfin, ce genre
oui,
de choses.
Oui, ça peut s'apparenter à des cirrhoses.
Et ça peut survenir très tôt s'il y a surconsommation de
ça
soda.
Ça peut survenir très, très tôt. Et on voit des jeunes adultes qui ont déjà des foies gras.
Impressionnant.
Ouais. Et donc, là, c'est régime strict à vie.
Oui, c'est ça. C'est qu'on il n'y a pas de retour en arrière possible. Bah,
non, le foie peut se régénérer, mais c'est pas non plus. Il reste très fragile.
Ah oui. Ouais. Donc il faut le rappeler, la boisson numéro un.
C'est l'eau. Tout à fait.
Exactement.
Après un soda de temps en temps, c'est pas problématique.
Oui, mais comme on le disait tout à l'heure. Dans les jours où on sort absolument avec les copains, on se fait la totale, la pizza, le soda,
absolument,
etc. Et le donut.
On peut rester sur l'alimentation ultra saine au quotidien. Hein. On peut se faire plaisir quand
tout
même
à fait.
Régulièrement.
Exactement. Donc, merci beaucoup, Véronique. Est-ce que
merci
vous pouvez nous dire comment on peut prendre contact avec vous?
Alors, on peut me contacter par téléphone.
Oui.
Donc 06 22 82 82 86.
Oui, on mettra vos coordonnées sous le podcast, comme ça.
Très bien, sinon par mail, info@nouvier.com. Et j'ai un site internet aussi où j'explique un petit peu tout ce que je fais. Donc www.nouvier.com.
Ben, merci beaucoup Véronique pour cet échange. Et comme je l'ai signalé, on va vous retrouver dans une autre émission où on parlera plutôt des troubles du comportement alimentaire.
Très bien, merci à vous.
Merci à vous, au revoir.
C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche et c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Radio Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30,